Bonjour à tous. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là cet après-midi avec vous. Et je connais quelques visages parce qu'on a organisé il y a quelques mois en arrière une campagne d'évangélisation à Montreuil et l'église de Saint-Maur était venue nous soutenir, nous prêter main forte et on a passé 4 merveilleux jours en train de partager la parole de Dieu. En tout cas, c'est un réel plaisir de venir ici. C'est vrai que c'est la toute première fois que je viens dans cette église. Je suis heureux en tout cas d'être ici et d'être au milieu des frères et des sœurs en Christ. Je commence par dire grand merci au Seigneur qui permet que je sois ici et en même temps dire merci aux responsables de cette communauté, en commençant par le pasteur Nguyen que j'ai eu la grâce de connaître pendant les rencontres de l'AECM. Le frère Yorks, depuis l'IBN, on a tissé de très bons rapports. En tout cas, merci pour l'invitation. Le pasteur Philippe Gaou n'est pas là, mais avec lui, on a longuement parlé de ce rendez-vous. Et il m'offre l'occasion de pouvoir m'adresser à vous cet après-midi. C'est avec joie que je réponds à cette invitation, mais en même temps avec humilité, parce que parler de la part de Dieu, ce n'est toujours pas facile, C'est une grande responsabilité que de prendre la parole et d'essayer d'expliquer le message divin. Il m'a été demandé de vous entretenir cet après-midi sur la parabole du vigneron et de ses ouvriers. En tout cas, j'avoue que c'est la première fois que je prêche sur ce texte-là. Voilà. Et comme vous l'a rappelé le dimanche dernier, le pasteur Yorks, mon cher collègue, en fait, les paraboles ont chacune une pointe, c'est-à-dire un enseignement particulier, un enseignement qu'elle cherche en fait à souligner. Et cette parabole que nous examinons cet après-midi, cette parabole a été racontée principalement pour exalter le peuple de Dieu, exalter en quelque sorte la grâce infinie de Dieu, cette grâce que Dieu accorde à tous ses enfants, quelle que soit l'heure de leur venue à la foi. Et pour mieux comprendre donc cette parabole, il nous faut en quelque sorte considérer le contexte de ces chapitres 20 de Matthieu. Et un détour rapide au chapitre précédent, le chapitre 19, nous permet effectivement de cerner de quoi il est en fait question dans ce texte que nous étudions aujourd'hui. À partir du verset 16 du chapitre 19, on voit un jeune homme très riche qui s'approche du Seigneur Jésus-Christ et qui lui pose la question, que dois-je faire, maître? Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Alors, je pense que vous l'avez noté, il est question donc ici de salut, de vie éternelle, mais surtout de l'effort humain afin de mériter cette vie éternelle. Qu'est-ce que moi, je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle? En fait, la réponse que Jésus donne et la conclusion qu'il tire de cette histoire avec ce jeune homme riche va laisser les disciples de Jésus-Christ complètement perdus, complètement perplexes, parce que Jésus va leur dire qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer ou d'hériter le royaume des cieux. Et alors, les disciples de Jésus vont poser la question, si tel est le cas, qui peut donc être sauvé? Comme pour dire encore, est-ce qu'il est possible à un homme de se sauver lui-même? Jésus rassure ses disciples et il a dit quoi? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, c'est possible. À Dieu, c'est complètement possible. Oui, bien aimé, le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Le salut n'est pas l'œuvre d'un homme. Et après, on voit l'apôtre Pierre. Pierre, à l'époque, était donc disciple de Jésus-Christ, qui semble ne pas être totalement satisfait de la réponse que Jésus donne ici. Donc, Pierre prend la parole et il s'adresse à Jésus en disant, écoute, maître, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous? Alors Pierre, par cette question, semble en quelque sorte vouloir attendre du Seigneur Jésus-Christ une certaine reconnaissance à la mesure de sa fidélité à Dieu, de son attachement à la parole de Dieu. Alors pour Pierre, il est vrai que Dieu sauve. Mais quand même, est-ce que nos efforts ne comptent pas quelque part? En fait, c'est la question que Pierre est en train de poser ici à Jésus-Christ. Et à Jésus de le rassurer à nouveau en lui disant, ben écoute, vos efforts, votre fidélité n'échappera pas à l'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que, voilà, vous allez siéger sur les douze sièges et sur les douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Mais encore, Jésus va jusqu'à lui dire, ben, vous hériterez la vie éternelle. Nous sommes au verset 28, 29 de Matthieu chapitre 19. Il y a encore la question, bien-aimés frères et sœurs, de vie éternelle, mais de vie éternelle qu'on va hériter. Comme un héritage, et vous savez, un héritage, on ne le mérite pas. C'est quelque chose qui n'est pas dû, c'est quelque chose qui est donné. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Comme un bon enseignant, et pour corriger donc cette erreur, cette conception erronée que Pierre et ses collègues disciples avaient sur les conditions d'accès au royaume de Dieu, eh bien, Jésus-Christ raconte cette parabole qui vient de nous être lue tout à l'heure. Bien-aimés, le but donc de cette parabole est une mise en garde quant au danger de concevoir le salut comme quelque chose qu'on peut mériter par soi-même. Jésus va donc, il va montrer ici, hein, il va montrer à ses disciples par cette parabole que la mesure qui accourt dans le royaume des cieux, c'est en fait celle de la grâce souveraine de Dieu. On n'est pas sauvé par ses propres œuvres, mais on est plutôt sauvé par la grâce exclusive de Dieu. Ainsi, pour Christ, tous dépendent, en fait, tous ceux qui ont accès au royaume des cieux, tous dépendent de la grâce d'un Dieu bon et juste. Tous. Tels que nous sommes, les ouvriers du Seigneur, nous dépendons de la grâce d'un Dieu juste et bon. Alors, s'il y a, en quelque sorte, un thème qui ressort clairement des sept premiers versets de cette parabole que nous venons de lire tout à l'heure, c'est en fait celui de l'appel. C'est celui du choix. On pourrait même dire, c'est celui, en fait, de l'élection. Vous avez sûrement noté que le personnage, l'accent est mis sur le personnage principal de cette parabole. Hein. C'est le maître. Tout est focalisé en quelque sorte sur lui. C'est à partir de lui que l'action en quelque sorte se situe. Pourquoi? Simplement pour en quelque sorte mettre l'accent sur l'importance du rôle qu'il va jouer ici dans cette parabole. Dès le début de la parabole, ben on voit le maître se mettre en mouvement. Le maître se met en mouvement et par quatre fois le verbe sortir lui est appliqué. Au verset 1, au verset 3, au verset 5, au verset 6, on nous dit que le maître sortit. Et quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Ben il va vers les ouvriers. Et pendant que le maître est en mouvement, qu'est-ce qui se passe? Ben les ouvriers, eux, ils sont statiques. Ils ne bougent pas. En fait, ils sont comme immobiles, comme des bois morts. En fait, c'est aussi le sens du mot isthémie qu'on trouve dans ce texte. La Bible nous dit qu'ils sont sur place sans rien faire. Les ouvriers sur la place doivent leur embauche au seul bon vouloir de les mettre. Ils n'ont absolument rien fait pour mériter le boulot qu'ils ont maintenant, sinon que ils étaient là. Et ils étaient prêts à répondre à l'appel du maître. C'est le maître qui fait le premier pas, et c'est lui qui va vers eux. C'est le maître, c'est suite en fait à l'appel du maître que les ouvriers vont donc intégrer l'équipe du maître et devenir en quelque sorte les employés du maître. Sinon, ils vivaient tous dans une situation difficile. Ils vivaient dans une situation de misère. Ils vivaient dans une situation de précarité. Ils n'avaient pas d'emploi. Je pense que français ici, on comprend bien ce que ça signifie être au chômage. Si vous n'avez pas d'emploi, vous savez, et surtout quand vous avez une famille, hein, vous savez ce que ça signifie. Il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui est venu me voir pour demander de compris pour lui parce que voilà, son épouse va à l'IBN pour commencer les cours. Donc c'est un salaire de moins hein, qui arrive. Et donc désormais, il a la lourde responsabilité de prendre en charge et sa famille et son épouse, etc., etc. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux vraiment prier pour moi? Ces ouvriers seraient restés dans cette condition difficile, si le maître n'était pas intervenu pour les sortir là. N'en est-il pas ainsi de nous, bien-aimés frères et sœurs? Comme ces ouvriers, en fait, nous n'avons aussi rien fait pour mériter, pour être choisis par Dieu, pour être adopté comme ses enfants, bien-aimés. Notre élection n'est fondée sur aucun mérite. Notre élection n'est fondée sur aucune action menée par nous-mêmes. Avant que nous ne devenions chrétiens, avant que nous ne soyons sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, qui étions-nous? Mais nous étions des pécheurs perdus. Nous étions des ennemis même de Dieu. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 2, décrit un peu la condition de ceux qui étaient loin de Christ avant la venue de Christ. Il dit qu'on était sans Dieu. On était sans Christ, je veux dire. Sans Christ, comme pour dire, vous étiez sans chef. Vous étiez sans roi. Vous étiez sans sauveur. Imaginez-vous un brebis, un troupeau sans maître. Un troupeau sans responsable, tout ce que cela peut provoquer. Paul dit, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Telle était notre condition. Alors que tout le peuple d'Israël avait bénéficié des alliances de Dieu, des promesses de bénédiction de Dieu, qu'est-ce qui nous était réservé? C'était la malédiction au lieu de la bénédiction. Paul dit, vous étiez sans espérance. Sans espérance, comme quelqu'un qui souffre d'un cancer et à qui on a dit, monsieur, il n'y a plus d'espoir pour vous. Alors hier, dommage, il y a une jeune fille que j'ai connue dans ma communauté qui est partie comme cela parce qu'effectivement, elle avait un cancer de sang. Malgré tout ce qu'on a fait, elle n'a pas survécu et puis elle s'est en allée. Sans espoir, malgré les moyens que les parents avaient, ils n'ont pas pu la sauver parce que c'était simplement sans espoir. C'était en quelque sorte notre condition avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Et Paul continue en disant, nous étions sans Dieu dans ce monde. Comme pour dire, nous étions des athées. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. En fait, nous ne croyons pas en Dieu parce que nous ne savions même pas qu'il existait, qu'il était un Dieu bon pour chacun de nous. Non, nous ne méritons absolument rien de Dieu. Sinon, sa condamnation. Sinon, la mort pour notre péché. Voici ce qui nous était réservé. Et c'est là, dans cette situation chaotique, que la grâce de Dieu nous a trouvés. Et c'est là que le Seigneur vient en quelque sorte nous chercher. Voilà le message que le Seigneur voulait apporter à travers cette parabole. Mais on voit aussi dans cette parabole que les ouvriers sont employés à des différentes heures. Ils sont embauchés à des différentes heures. Alors j'ai essayé de voir. Hein. Il y a un premier groupe qui est embauché vers la sixième heure, un autre groupe à neuf heures du matin, un autre groupe à midi et puis à 15 heures. Et puis les derniers sont venus quand même tout à fait vers 17 heures. Or la journée de travail devait s'arrêter à 18 heures, donc 12 heures de travail. Mais eux ils viennent et ils sont juste employés pour une seule heure de travail. En fait, trois choses caractérisent ces ouvriers-là. Ils étaient d'abord tous sur la place du marché en quête d'emploi. Tous. Qu'on peut dire qu'ils étaient tous des chômeurs, ils étaient des personnes en souffrance, ils étaient des personnes qui avaient besoin d'aide. Et sans l'aide du maître, leur situation était une situation difficile. Deuxièmement, nous apprenons ici qu'ils ont tous été recrutés par le même maître. Ils ont tous bénéficié de l'amour du maître qui les appelle et qui les intègre en quelque sorte dans son équipe. Et enfin, on voit que ils avaient tous été envoyés dans la même vigne. Tous ont été faits des serviteurs de Dieu et ils étaient tous au service de Dieu.
Cela traduit quoi en réalité?
Mais en fait, l'égalité entre ces différentes personnes. Alors, il y avait une certaine égalité entre eux. Peu importe l'heure à laquelle chacun a été appelé, embauché, mais tous étaient ouvriers du maître et tous étaient au service du maître. Tous ont reçu la même offre. Tous ont été choisis suivant les mêmes critères. Et tous ont donc été choisis suivant le seul bon vouloir du maître. Le peuple d'Israël, comme vous pouvez bien le savoir, s'est considéré comme le seul peuple bénéficiaire du salut de Dieu. Mais grâce à la venue de Jésus-Christ dans le monde, mais l'offre du salut a été offerte, a été étendue à tous les peuples, à toutes les nations. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes ensemble et nous appartenons aujourd'hui au peuple de Dieu, à la famille de Dieu. L'apôtre Paul le dira d'ailleurs hein, quand il réalise cette condition dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 9. Paul dira, Dieu nous a rassemblés, nous a ressuscités ensemble. Quelle grâce, bien-aimés frères et sœurs. Avec les Juifs, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelle grâce! C'est donc du bon vouloir, du bon plaisir de Dieu de donner à tous le royaume de Dieu et de donner ce royaume de Dieu en abondance. Cette parabole nous apprend, frères et sœurs, qu'il n'est donc pas trop tard d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la première chose à retenir. Mais il n'est pas non plus trop tard de se mettre au service du maître. Alors, pendant qu'on faisait cette campagne d'évangélisation au mois d'avril dernier, j'ai rencontré un monsieur, il était sur une grosse moto, et je suis venu vers lui pour lui dire, monsieur, je veux partager avec vous l'espérance que moi j'ai en Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez Il me dit, monsieur, pour moi, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Ne m'embêtez pas avec ça. Pour moi, je suis dans une situation, il n'y a plus d'espoir pour moi, plus rien ne peut être fait pour moi. Je ne suis pas sûr que votre Jésus puisse faire quoi que ce soit pour moi. Mais ce texte nous rappelle que le maître continue encore de recruter, frères et sœurs. Le maître continue de recruter. Il n'y a pas, en fait, il y a encore de l'espoir. On peut encore se mettre au service de Dieu. Mais ce texte nous apprend aussi que les plus jeunes ont autant de valeur aux yeux de Dieu que les plus anciens. Je ne sais pas, mais j'ai déjà rencontré des églises où quelques anciens, les premiers convertis, revendiquent la paternité de l'église. L'église nous appartient, nous sommes les maîtres ici. En fait, c'est nous qui sommes les responsables, c'est nous. Ils essayent de se mettre en valeur. Ici, nous voyons dans ce texte que les nouveaux convertis ont autant d'importance aux yeux de Dieu que les vétérans dans la foi. Tous sont pris sur le même pied d'égalité dans la maison de Dieu. Frère, le brigand sur la croix partage le trône de Dieu avec l'apôtre Pierre. Il partage le trône de Dieu avec l'apôtre Jean. Il partage le trône de Dieu avec l'apôtre Paul. Ceux qui ont suivi le Seigneur pendant des années et qui ont travaillé pour lui pendant plusieurs années. Lui, il n'a eu peut-être que quelques heures avec le Seigneur Jésus sur la croix. Et c'était déjà suffisant pour qu'il puisse effectivement hériter du royaume des cieux et partager cette grâce avec lui. Ainsi, comme nous venons donc de le voir, tous sont élus selon le bon plaisir de Dieu. C'est l'enseignement premier que ce texte voudrait nous partager. Deuxièmement, la première partie de ce texte ou de cette parabole, il est question d'appel, il est question d'élection. Mais dans la deuxième partie, nous voyons plutôt qu'il est question de salut par la grâce seule. L'expression « le soir venu » annonce déjà hein, le moment de la reddition des comptes, n'est-ce pas? Le moment où on va essayer d'évaluer tout ce qui s'est passé. Et rappelez-vous que quand il s'est agi d'embaucher les ouvriers de la première heure, le texte biblique nous dit qu'un salaire avait été négocié avec eux. Ils devaient recevoir chacun un denier. Et pour la journée de travail qu'ils auraient pu faire ce jour-là. Mais avec les quatre autres groupes qui vont être embauchés, nulle part il ne nous est dit hein, si un salaire avait été négocié avec ces personnes. Non, aucun salaire n'a été fixé. Le maître s'est simplement contenté de les promettre les payer un salaire qui soit juste. Combien s'élevait ce salaire qui doit être juste? Personne ne le sait. Mais que font ces ouvriers de la dernière heure? Ils font confiance au maître et ils s'engagent, ils se mettent au service du maître. Bien-aimés, nous sommes ici dans le domaine de la foi. Nous sommes dans le domaine de cette foi qui appelle à croire sans avoir vu. Paul, je dirais Jésus, le disait, n'est-ce pas, à Thomas, heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors, je l'ai dit tantôt, à combien pouvait s'élever ce salaire? Mais personne ne le savait. Est-ce que ces ouvriers de la dernière minute s'étaient approchés des premiers pour essayer de les sonder et savoir comment eux, ils ont négocié le salaire avec leurs responsables? Non, le texte ne nous dit absolument rien par rapport à cela. Mais l'auditoire, qui est témoin de cette situation, ben l'auditoire est informé effectivement. Hein. Lui, il sait le montant qui a été négocié entre le maître et les premiers embauchés. Et l'auditoire peut donc anticiper pour essayer de voir combien chacun de ceux qui ont été employés pouvait en fait recevoir à la fin de la journée. Je ne suis pas un bon mathématicien, mais si une journée de travail, 12 heures de travail est égale à un denier, mais quelqu'un qui a été embauché donc à la 9e heure, ben il est naturel que lui il reçoive 75% du denier. Et 75% du denier, et ceux qui ont été embauchés en 3e position, ils reçoivent 50% du denier, et puis l'autre groupe va recevoir 25% du denier, et les derniers qui sont venus juste pour une seule heure, ils vont recevoir 0,8% du denier. Ben l'auditoire pouvait automatiquement faire les calculs hein, pour voir ben chacun mérite suivant son travail. Chacun mérite souvent ce qu'il a fait. Et vous savez, ces informations sur le salaire ici, qui sont voilées, même dévoilées quelque part, constituent l'enjeu du dénouement de cette parabole. Il se passe des choses étonnantes et même des choses choquantes dans cette parabole. On voit dans cette parabole l'ordre des choses qui est complètement renversé. D'abord, on constate au moment de la paye, qu'est-ce qui se passe? Ben, contre toute attente, ce sont les derniers qui sont les premiers à être appelés et à être payés. Mais on pourrait se poser la question, comment expliquer que les moins méritants retiennent en premier l'attention du maître? On aurait préféré que ce soit ceux qui ont passé toute la journée, que ce soit eux qu'on applaudisse et qu'on dise merci pour votre travail, voici votre salaire. Mais ensuite, et c'est la deuxième surprise, à la surprise générale de tout le monde, mais les derniers vont recevoir le salaire qui était prévu pour toute la journée de travail. Un denier. Chacun d'eux reçoit un denier. Le maître déjoue complètement les pronostics dans cette parabole. Et on voit effectivement des réactions. Hein. Les premiers qui ont été embauchés, ben leur réaction peut être positive. Hein. Ils peuvent déjà eux aussi anticiper et dire, ben écoutez, si les derniers ont reçu, ils n'ont fait qu'une heure de travail, ils ont reçu un denier, qu'en est-il de nous qui avons fait 12 heures de travail? Chacun dans sa tête peut-être est en train de réfléchir et dire, ben oui, j'ai droit à 12 deniers parce que nous avons fait 12 heures de travail. Suivant la logique humaine du mérite, ben, celui qui a fait une heure a reçu un denier, et celui qui a fait 12 heures mérite 12 deniers. Mais que va-t-il se passer? Contre toute attente, eux là, ils reçoivent chacun aussi un denier. Et cela va les mettre énormément en colère. Et ils ne cacheront pas, en quelque sorte, leur colère. Dans leur colère, ils murmurent contre le maître. Et ils vont même, en quelque sorte, critiquer sa façon de gérer. Ces derniers n'ont fait qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous. Mettez l'accent sur cette expression. À l'égal de nous. Pour eux, c'est injuste. Ils ne peuvent pas quand même se mesurer à nous. Nous valons mieux qu'eux. Nous avons plus travaillé qu'eux. Et ça rappelle aujourd'hui la nature de l'être humain, n'est-ce pas? Qui cherche tout le temps à se mettre en valeur. Je suis meilleur que lui, donc il peut pas se mettre à ma place. Cette place-là, c'est une place réservée. Et dans bien des situations aujourd'hui, on trouve non, ici c'est réservé, ce n'est pas pour tout le monde. C'est la place VIP. Alors il faut être de mon standing pour pouvoir occuper cette place-là. Eux, ils sont plus bas. Ils doivent rester au plus bas. Dans la logique humaine du mérite, bien-aimés frères et sœurs, ben en fait, la justice humaine requiert que pour un travail égal, on donne un salaire égal. Mais je voudrais vous inviter à considérer cette parabole hein, sous un autre angle. Imaginez que ce soit les premiers que le maître ait appelé en premier et qu'il les ait payés ce qui était convenu, quelle aurait été leur réaction? Je suis sûr qu'ils auraient peut-être dit, qu'ils se seraient réjouis de recevoir un denier. Et ils auraient même applaudi et dire merci à leur maître parce qu'il a été fidèle à sa parole et il leur a donné justement ce qui était convenu. Je pense que le problème dans cette parabole ou dans cette situation, c'est le fait que le maître ait simplement interverti l'ordre. Au lieu d'appeler les premiers, il appelle les derniers et c'est là que se trouve véritablement le problème. Mais si le scénario était inversé, il n'y aurait pas eu de murmures, il n'y aurait pas eu de problème. Combien, je le disais tantôt, hein, estimons-nous souvent être meilleurs que les autres? Combien sont-ils encore ceux qui estiment mériter plus que les autres? Et ici, on voit nécessairement que Jésus ne parle pas dans cette parabole, il ne parle pas de droit des travailleurs dans cette parabole. Jésus n'établit pas une éthique de travail basée sur l'égalitarisme, non! Il révèle plutôt la nature du royaume des cieux. Et la parabole commence d'ailleurs comme cela. Elle commence en disant, le royaume des cieux est semblable à. Jésus révèle la nature du royaume des cieux. L'accès au royaume des cieux n'est pas basé sur le mérite humain. Mais l'accès au royaume des cieux n'est que le fruit de la seule grâce, de la seule grâce de Dieu. Nous n'avons aucun droit sur Dieu. Et vous savez, savoir que nous n'avons aucun droit sur Dieu nous amène souvent à l'humilité. Savoir que nous n'avons aucun droit sur Dieu nous amène souvent à réaliser que nous sommes indignes face à l'amour de Dieu. On est tellement emporté à revendiquer nos droits, mais sauf que là, la Bible nous informe que nous n'avons absolument aucun droit sur Dieu. Avec la grâce, fini le complexe de supériorité. Mais avec la grâce, fini aussi le complexe d'infériorité. Avec la grâce, fini le complexe d'indignité. Combien de personnes ne disent-elles pas, non, moi je suis indigne, voilà pourquoi je ne peux pas m'approcher du Seigneur. Non, je suis indigne, je ne peux pas, voilà pourquoi je ne peux pas servir. Ce matin, j'ai discuté avec un jeune qui me disait, pasteur, je suis tellement indigne que je ne suis pas prêt pour le baptême. Ce matin même, quand j'ai discuté avec lui. Je suis indigne, comment un Dieu si bon peut-il prendre soin de moi? Non, je ne suis pas prêt encore pour le baptême parce que je ne suis pas, en fait, je traîne encore des choses. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte nous rappelle que c'est tel que nous sommes pécheurs que Jésus a besoin de nous. Et d'ailleurs, Paul dira aux Romains, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu pour nous. C'est pour les pécheurs, c'est pour les malades que Christ est venu. Il n'est pas venu pour les bien portants. Lui-même, il le dira, hein, dans Luc chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Christ est venu pour quelqu'un qui est perdu comme moi. Ainsi, dans le royaume de Dieu, le salut n'est jamais un droit. Personne ne mérite absolument rien. Dieu travaille selon sa bonté. Dieu travaille selon sa générosité. Il accueille les indignes dans son royaume. Tous, nous profitons de cette soi-disant injustice de Dieu pour entrer dans son royaume. Mais d'un autre côté, il est important de le noter, c'est que nous sommes tous aussi témoins de la grâce de Dieu. En regardant en lisant ce texte dans son verset 2, nous voyons que les ouvriers, quand ils sont recrutés, ils sont envoyés. Ils sont envoyés dans la vigne. C'est le sens du mot apostolos, le fait d'être un apôtre, un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, Dieu merci, mais nous sommes aussi porteurs d'une grâce. C'est à nous de partager cette grâce-là. On ne peut pas avoir la bonne nouvelle et la garder avec nous. On ne peut pas être au courant d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle se partage, elle ne se garde pas. Nous avons la grâce, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons l'espérance, bien-aimés frères et sœurs. Et combien sont-ils dehors et qui n'ont pas cette espérance et qui sont sur le chemin de la perdition? Ce matin, quand je venais avec mon frère Samuel, hein, on parlait encore d'évangélisation. Il est très fort dedans dans l'évangélisation. Hein. Il disait, quand je lève les yeux, pasteur, je vois cette ville, je vois beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il a raison. Pourtant, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Et c'est à nous de partager cette grâce, frères et sœurs. Alors, Jésus termine donc cette parabole en présentant trois vérités fondamentales sur Dieu. J'aimerais partager ces vérités-là avec vous. La première vérité que Jésus partage sur Dieu ici, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste. On voit le maître clamer sa justice, n'est-ce pas? Mon ami, je ne t'ai fait aucun tort. Il a raison. Et il dit, ben, où est donc mon injustice? N'étions-nous pas d'accord pour indénier? Il réclame sa justice. Frère, chers amis, retenez que notre Dieu est un Dieu juste. Et puisqu'il est un Dieu juste, il nous donnera ce qu'il nous a promis. Et qu'est-ce qu'il nous a promis? La vie éternelle. Nous pouvons être certains que Dieu nous donnera cette vie éternelle. Nous devons donc continuer à faire confiance à notre Dieu, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous rassure l'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 10. Notre Dieu est un Dieu juste. Et en tant que juste, il tient toujours ses promesses. Deuxième vérité sur Dieu qui se dégage de ce texte-là, c'est qu'en plus d'être un Dieu juste, il est aussi un Dieu souverain. Dieu fait grâce à qui il veut. Il le dit dans ce texte. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux de mes biens? Cela rappelle quoi? L'élection, n'est-ce pas? Ça rappelle ces choix divins, cette volonté de Dieu d'accorder le salut à qui il veut selon sa volonté. Dans Romains chapitre 9, verset 14 à 16, hein, nous lisons, et là c'est Paul qui parle. Mais alors, que dire? Dieu serait-il injuste? Paul répond aussitôt en disant, mais loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je vais faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Et avec Pascal Denon, nous voulons conclure ici pour dire que Dieu emploie sa souveraineté, non pas pour nous appauvrir, mais il emploie sa souveraineté pour nous enrichir. Il est un Dieu souverain et il nous enrichit. Nous n'avons absolument rien mérité de lui. Et la troisième vérité qui se dégage de ce texte, hein, par rapport à Dieu, c'est que Dieu, il est aussi un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu généreux. Il est non seulement juste envers ceux qui le méritent, mais il use aussi d'une générosité extravagante envers ceux qui ne le méritent, même pas. Dieu est un Père généreux et nous ne perdons absolument rien parce qu'il a été généreux envers ceux qui ne le méritent pas, dit Nicolas Keane. Je voudrais conclure ici donc sur le verset 16 qui est sans doute la pointe de cette parabole que nous étudions ce matin. Le verset 16 dit ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. En fait, on trouve une citation similaire hein, à la fin du chapitre 19, verset 30. Là, nous lisons, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Mais je voudrais aussitôt vous dire que ces deux citations sont totalement différentes. Et ces deux citations ne veulent pratiquement pas dire absolument la même chose. Non. D'ailleurs, vous l'avez sûrement noté, hein, elles sont déjà différentes dans l'ordre même des choses. Hein. L'ordre est complètement renversé. Dans Matthieu 19, 30, on parle des premiers qui seront des derniers et des derniers qui seront des premiers. Et dans Matthieu 20, 16, on parle des derniers qui seront des premiers et des premiers qui seront des derniers. Ça, c'est la première différence, mais la moins importante. En fait, la plus importante, on voit que dans Matthieu chapitre 19, verset 30, les derniers, on parle des derniers parmi les hommes. Donc les derniers aux yeux des hommes. Mais ce sont ces derniers-là aux yeux des hommes qui seront les premiers aux yeux de Dieu, comme pour dire dans le royaume de Dieu. Et quand on parle des premiers parmi les hommes, on fait référence à qui? Souvenez-vous de ces jeunes hommes riches hein, qu'on a mentionné tout à l'heure au début. Mais ces derniers, c'est l'élite de ce monde. Ce sont des gens auxquels on croit et qu'on place au plus haut de l'échelle. Ce sont des chefs qui occupent la première place, mais qui ont rejeté Jésus-Christ, mais ceux-là, aux yeux de Dieu et dans le royaume de Dieu, ils seront les derniers. Ils ne sont pas les premiers aux yeux de Dieu, mais ils sont plutôt les derniers aux yeux de Dieu. Mais quand on vient dans Matthieu chapitre 20, là, il est question des premiers et des derniers qui reçoivent le même salaire, les premiers et les derniers qui reçoivent le même statut, qui sont pris sur le même pied d'égalité. sur le même pied d'égalité. Il n'y a donc pas de différence entre eux, entre les ouvriers. Qu'ils soient embauchés à la première heure ou qu'ils soient embauchés à la dernière heure, ils sont tous pareils aux yeux de Dieu et ils reçoivent le même salut de la part de Dieu. Frères, nous voyons donc ici que Jésus met en évidence, ce qu'il met ici en évidence, c'est bien une égalité et non une hiérarchie dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'hiérarchie. Au ciel, il n'y aura pas des patrons, des archevêques, des grands révérends, etc. Il n'y aura que des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie dans la maison de Dieu. Que l'on serve l'Éternel pendant toute sa vie, ou que l'on se convertisse au soir de sa vie aux yeux de Dieu, ben nous recevons tous le même salut. L'exemple de ce brigand sur la croix est là encore, hein, pour nous le rappeler, n'est-ce pas? Jésus-Israël écrit à propos la vraie foi en Christ, même si elle n'est vieille que d'un jour, justifie un homme devant Dieu aussi complètement que la foi de celui qui a suivi Christ pendant 50 ans. Et c'est vrai. Celui qui s'est converti en un seul jour, ben sa foi le justifie comme de la même façon que celui qui s'est converti il y a 50 ans en arrière. Ben on pourrait dire pourquoi cette injustice, n'est-ce pas? Pourquoi cette injustice? Ben simplement parce que la vie éternelle n'est pas gagnée progressivement. La vie éternelle n'est pas gagnée progressivement, mais la vie éternelle est gagnée instantanément. À partir du moment où on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et on devient automatiquement enfant de Dieu. Alors, mais après qu'on ait dit ça, il faut faire attention, n'est-ce pas? Attention à remettre sa foi et sa repentance à demain. Vous savez, le cœur humain pourrait éventuellement dire, ben si... Celui qui s'est converti très jeune et celui qui s'est converti au soir de sa vie, c'est pareil. Pourquoi alors se convertir maintenant? Écoutez, si accepter le Seigneur Jésus-Christ sur mon lit de mort, c'est pareil à celui qui a passé 50 ans en train de le servir. Pourquoi ne pas profiter de la vie? Pourquoi ne pas profiter de cette vie de péché? Pourquoi ne pas profiter de ces deux mondes? Et après, au soir de ma vie, prendre la décision de changer complètement et de me convertir et devenir enfant de Dieu. Attention. Une telle mentalité n'est pas une mentalité à encourager. Une telle mentalité n'est pas une mentalité sur laquelle, frères et sœurs, il faut miser. Pourquoi? Parce que simplement, la mort est comme un voleur. La mort est comme un voleur et personne ne sait quand est-ce qu'il va venir frapper à notre porte. Peut-être que vous ne vous rendrez même pas compte quand elle va venir frapper à votre porte et vous n'aurez pas l'occasion de vous convertir. Alors, ce matin, je racontais ça aussi à ce jeune, hein, avec lequel j'ai eu à discuter. Il m'a dit, t'as raison, pasteur. Et puis, il a donné un bel exemple, l'exemple du vice-président de notre église, un jeune de 23 ans, qui, bien portant, hein, très, très bien portant, il est sportif, etc., etc. Il est allé faire un semi-marathon. Il est tombé, il a fait une crise cardiaque. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il est revenu à la vie. C'est un jeune qui est très cartésien, il réfléchit beaucoup et lui-même, dans son témoignage, j'ai dit, en fait, quand, les statistiques qu'il a regardées, il a vu que, en de pareilles circonstances, une personne sur 10 revient à la vie. Les 9 meurent. Et c'est une grâce. Et si lui, il est revenu à la vie. Et ce jeune homme m'a dit, écoute, je peux effectivement être à sa place. Je ne sais pas quand ça peut m'arriver et puis je tombe, mais si je mourrais. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui en train de réfléchir à s'engager, à prendre la décision pour vraiment professer de façon publique son Seigneur. Je veux aussi encore hein, réciter remettre cette citation de Roy là, quand il dit à nouveau, gardons-nous de présumer à partir de cette parabole qu'il est sans danger pour quiconque de remettre la repentance à la fin de ses jours. Une telle supposition est une dangereuse folie. Plus les hommes refusent d'obéir à la voix du Christ, moins ils ont la chance d'être sauvés. Voici maintenant le jour du salut, nous dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Peu sont sauvés sur leur lit de mort. Un voleur sur la croix a été sauvé afin que personne ne désespère, mais un seul afin que personne ne soit présomptueux. Une vaine confiance en la 11e heure a ruiné des milliers d'âmes. Et je pense qu'il a raison. Il a raison. L'auteur de l'épître aux Hébreux va conclure. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais ouvrez-lui plutôt vos cœurs. Frère, je suis conscient que tout cela n'est pas facile. Hein. Nous sommes des êtres humains. Je suis conscient que nous sommes des êtres imparfaits. Je suis conscient que parfois nous montrons une certaine mentalité charnelle. Des fois nous ne sommes pas motivés par des récompenses. On aime souvent dire que ce qui coûte a plus de valeur que ce qui est gratuit. Donc on veut tellement mériter nous-mêmes quelque chose. C'est aussi notre nature. Je suis conscient que tout cela n'est pas facile. Mais je peux vous rassurer d'une chose, c'est que vous avez le soutien de Dieu. L'Esprit du Seigneur est avec vous pour vous aider effectivement chaque jour à progresser vers cette mentalité renouvelée, à progresser, à être motivé par l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus effectivement nous enseigne dans cette parabole. Et ma prière est que, oui, cette parabole puisse être un moyen pour nous de nous rattacher davantage au Seigneur et de croire que nous dépendons tous de sa grâce, tel que nous sommes. Il est un Dieu souverain et nous dépendons de sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.